Pour vous présenter ce projet qu'on a monté donc avec trois grandes articulations, vous allez voir, c'est quelque chose d'un peu original entre donc des historiens, une géographe cogniticienne, des informaticiens autour de la question des plans des pistes. Donc un programme qu'on a appelé MECOMO. Vous avez ici la présentation in English in the text. Pour faire très simple, ce projet est venu d'Arthur Nova, qui est donc le fils de Pierre Nova, qui a réalisé une large partie des plans des pistes qui ont été en usage depuis les années 1960 jusque à la fin des années 1990. Il avait déjà réalisé avec sa sœur Frédéric Nova et Laurent Belluard un très bel ouvrage que vous avez peut-être eu l'occasion de feuilleter qui a été édité aux éditions Glénat et qui visait d'abord à éditer les panoramas que Arthur Nova avait réalisés pour réaliser ses plans des pistes. Donc c'était une première opération qui faisait changer de statut ces plans des pistes, qui sont des documents à vocation très très éphémères, sur des supports qui sont des supports très peu pérennes, pour leur donner donc déjà un autre statut qui correspondait à ce qui avait été une des intentions de Pierre Nova, qui était de leur donner un statut artistique. Et à la suite de cette première opération et donc de l'ouvrage qui a été réalisé, Arthur Nova a souhaité continuer le travail dans une autre perspective. Sa demande au départ était de trouver des interlocuteurs pour réfléchir à la possibilité de numériser le savoir-faire de son père, d'où le fait qu'il se soit rapproché d'informaticiens du LIG. Mais autour de cette question de la numérisation s'est posée la question de savoir quoi numériser, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que le savoir-faire Nova, et c'est là qu'on lui a proposé donc de monter un programme qui soit un programme plus large, qu'on a conçu comme un programme expérimental, où le fait que c'était un petit projet par le financement qui était demandé, qui a été un financement croisé entre le LabEx et Innovax, puisqu'on était vraiment à l'interface entre les deux problématiques, et dont nous allons vous présenter très très rapidement les premiers résultats, ou en tout cas les premières pistes de réflexion. Je passe vite sur le contexte, mais je crois que c'est quand même important de comprendre quelle était la demande initiale telle qu'elle nous a été posée. Arthur Nova, mais également d'autres autour de lui, qui est dans les praticiens de la montagne, sont venus avec le discours suivant. Les plans des pistes produits par l'atelier Nova avaient correspondu à un besoin bien spécifique qui était celui du système sticky tel qu'il s'est construit entre les années 60 et la période la plus récente. Deuxième idée, ce type de représentation selon eux était devenu obsolète. Il fallait réfléchir donc aux raisons, il fallait réfléchir à l'adaptation de ce type de représentation. Donc nous sommes partis déjà de ces présupposés, mais vous allez voir qu'on les a fait évoluer donc au fil de nos premières recherches. Donc en termes d'axes de recherche, il y en avait trois. L'un qui était plus proprement historien sur la question de comprendre ces modes de représentation et de comprendre leur historicité, donc de faire le lien entre la construction du système ski et ce système-là. Un deuxième point qui était de comprendre l'impact cognitif de ces plans, là c'était Raphaëlla. Et un troisième point sur les questions de transfert et de reproduction dans un système informatique, et là c'était Mike donc et Renaud. Pour la partie qui m'intéresse moi donc d'un point de vue historien, Pierre Nova déjà, c'est effectivement une certaine représentation de la montagne. Pour tous ceux qui ont été skieurs durant cette période-là, elle peut paraître aller de soi. Ce que je voudrais juste vous montrer ici, en utilisant les représentations d'un autre grand panoramiste de la montagne, qui est Heinrich Behran, dont d'ailleurs Pierre Nova s'est inspiré au départ, combien on est sur des représentations qui sont différentes, mais qui correspondent toutes deux à des standards. Et c'est une des choses qui nous a intéressé, c'est de caractériser en quoi Pierre Nova a construit une représentation standard de la montagne qui se distingue d'autres types de représentations qui fonctionnent aussi sur des panoramas tels que celles que vous avez ici. Cette représentation de la montagne, et ça c'est quelque chose qui avait déjà été largement établi donc dans le travail précédent, c'est une représentation de la montagne qui est au service des stations de ski. Et un des Un des éléments du savoir-faire de Pierre Nova, c'est sa capacité à construire des déformations géographiques qui permettent de donner une représentation de la montagne qui correspondent aux besoins des stations, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité topographique. Donc ici, juste deux petits exemples pour vous le montrer. Vous avez à gauche une représentation de la station, de la petite station de Gavarnie, dans la représentation, a été produite pour être concomitante avec celle du cirque de Gavarnie, pour des raisons d'identification touristique évidente. Mais c'est une représentation totalement construite. Il n'y a absolument aucun endroit où vous pouvez voir en même temps ces deux éléments. Un autre très classique, les deux stations de Super Dévolu et de la Joue du Loup, qui sont construites sur deux versants donc contigus. Donc par définition, si vous êtes d'un côté, vous ne voyez pas l'autre, et si vous êtes sur l'autre, vous ne voyez pas l'un. Donc on est là sur, donc encore une fois, un des éléments du savoir-faire, qui est de construire des représentations qui sont à la fois totalement construites, mais qui paraissent totalement réalistes. Et la première idée, c'est qu'elles étaient réalistes, ou elles nous paraissent réalistes, parce qu'elles correspondent aux besoins qui sont produits. Donc, pour la partie proprement historique, il s'agissait d'abord d'essayer de voir comment étudier ces plans comme une source historique. Premier point. Et le deuxième point, collecter des sources orales en travaillant à la fois avec Arthur Nova, d'une part, et avec ses clients, ou les clients de son père, qui étaient les responsables de stations à différents niveaux. Donc, on a travaillé alors beaucoup avec Arthur Nova. Pour ce qui me concerne, j'ai fait de l'entretien audio classique, mais on a aussi fait, grâce ici aux équipes de la MSH, des entretiens filmés où je lui demandais de me commenter différentes versions d'un plan à différentes dates données. Ce qui permet d'avoir à la fois le récit construit oral classique, mais d'avoir aussi des informations beaucoup plus fines sur la description concomitante des différents plans. Vous avez ici donc une capture d'écran des films qui ont été réalisés. Et puis donc travailler à la constitution de ces plans comme source historique, donc en constituant des séries chronologiques. Voici un exemple des différentes représentations successives de ce qui a été d'abord Val d'Isère, Tignes, puis Val Tignes, puis l'espace Quilly. J'ai pas le temps d'y revenir, mais on voit simplement rapidement à l'œil combien on a dans un premier temps une adaptation de la représentation de la montagne elle-même, puis dans un deuxième temps une adaptation des fonctions ski qui sont représentées sur ce territoire. D'autres grandes questions, voilà, par exemple, ici à gauche, Villard-de-Lans, avec ou sans ski de fond, donc ce qui donne évidemment des types de représentations de l'espace qui sont très différentes. Et sur l'Alpe d'Huez, alors là, on a de quoi s'amuser tant qu'on veut avec les différents types de représentations qui étaient produites en fonction des rapports réciproques entre les différents acteurs de ce vaste domaine skiable. Mais comme je vous le disais, on était parti avec le questionnement donc initial qui était « ces plans ont fonctionné, ils ne fonctionnent plus ». Et en fait, au fil de notre travail, parce que justement, Raffaella va vous le montrer, elle a mis en évidence des éléments qu'on n'avait pas du tout au départ. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a conduit à réinterroger ce premier questionnement. Est-ce que ces plans correspondaient vraiment aux besoins passés ? Finalement, en travaillant à la fois avec Arthur Nova et avec les clients de son père, on s'est assez vite rendu compte que Arthur Nova faisait bien des choses qu'on ne lui demandait pas, qui ne correspondaient pas du tout à une demande, mais qui du coup, une fois qu'elle était réalisée, devenait un standard que du coup les autres lui demandaient. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas du tout immédiate quoi, entre une demande et un besoin. L'autre question aussi, c'est ces plans ont-ils vraiment fonctionné ? Parce que ce qu'on nous dit, c'est ça. Ces plans ont fonctionné avec un certain état du système ski, ils ne fonctionnent plus. Et en fait, là aussi, en creusant un peu dans les entretiens, on se rend compte que certes, ils ont fonctionné, mais pas forcément comme cela avait été initialement prévu. On voit bien que pour les gestionnaires de stations, leur fonction a considérablement évolué au fil du temps. On a bien vu l'importance de leur fonction commerciale. C'est d'abord des outils de communication. Et le grand inconnu, c'est la question de savoir comment ils ont vraiment fonctionné pour les skieurs. Parce que là, on est sur une difficulté du point de vue des historiens, c'est qu'on ne peut plus créer des sources qui n'existent pas. Mais on a la grosse chance, parce qu'on a Raffaella, qu'elle peut travailler sur la manière dont ils fonctionnent aujourd'hui. Et en fait, ça conduit, par les informations qu'elle va vous présenter là à l'instant, à réinterroger complètement les sources sur lesquelles moi je travaille en tant qu'historienne. Ça peut pas modifier mes sources, mais à l'évidence, ça modifie radicalement les questionnements avec lesquels je vais les traiter. Et ça, c'est ce qu'elle va vous montrer maintenant.
Merci bien, Anne. Donc nous avons hérité de 40 ans de plan Nova qui ont guidé les journées de ski de milliers et milliers de pratiquants. Et voilà, conscient de cet héritage, on s'est quand même posé une question banale. Qu'est-ce que le skieur ou le touriste comprend de ce plan ? Cette question banale, elle est abordée à travers l'étude donc des représentations mentales et déclinée en deux questions de recherche qui sont donc tout d'abord les représentations mentales de l'utilisateur et de l'expert correspond et quelles représentations sont vraiment efficaces pour qu'on puisse mener à bout une tâche. Je passe sur qu'est-ce que c'est une représentation mentale. Si c'est pas clair, je peux revenir après. Juste dire que pour l'artiste, comme on l'entend nous, donc l'expert, elle se traduise, elle se concrétise à travers le graphisme. Hein, c'est sa connaissance du monde qu'il traduit dans ses dessins. Et pour le skieur, l'utilisateur, les représentations mentales donnent les clés de lecture de ce graphisme. Donc, s'ils n'ont pas des concepts, s'ils savent pas ce que c'est une crevasse, par exemple, ils ne pourront pas la reconnaître sur un plan. Voilà, donc pour répondre à ces questions, nous avons mis en place un protocole expérimental. Donc j'ai dit nous parce que j'étais donc en collaboration avec un étudiant de master en psychologie cognitive qui accompagnait tout ce protocole et qui est dans la salle. Donc analyse de l'activité expert quand il réalise le plan de ski, l'analyse de l'activité utilisateur quand il lit le plan et comparaison entre l'information qui est fournie et l'information qui est traitée. Alors voilà, je vais vite, je vais pas rentrer dans les détails. Donc Arthur Nova a été observé en conditions écologiques, c'est-à-dire dans des vraies séances de travail pendant plus de 3 heures, et nous avons recueilli donc toutes sortes d'informations dans un cadre donc d'analyse, ce qu'on appelle le verbal data analysis, qui est un travail sur la sémantique donc du discours. L'activité utilisateur a été analysée aussi sur une partie donc du discours verbal. Nous avons observé une vingtaine de sujets avec cette fois avec des conditions contrôlées, c'est-à-dire avec des interviews semi-structurées dans lesquelles ils avaient deux tâches à réaliser, une tâche d'exploration et une tâche de création d'itinéraire. Et nous avons recueilli donc environ 15 heures d'enregistrement qui ont été ensuite transcrites. Une autre approche, cioè une autre analyse complémentaire a été celle donc des mesures columétriques, oculométriques, et là aussi même conditions contrôlées du sujet. Et nous sommes en train de finir le traitement, mais sur la première tâche, celle d'exploration, on a un traitement de 28 500 images pour avoir des analyses. Alors, les premiers résultats, donc préliminaires, nous avons réussi à identifier des règles opératoires pour la création de plans Nova. Donc des règles opératoires à la fois sur le dessin manuel de Pierre Nova et sur le dessin assisté par ordinateur d'Arthur. Et aussi nous avons défini une procédure de pratique, comment les skieurs utilisent le plan selon une journée type. De façon un peu plus précise, nous avons créé une taxonomie donc de catégories conceptuelles dans lequel on groupe tous les éléments graphiques et géographiques issus donc de la conception d'Arthur, de Pierre Nova et Arthur Nova et de la lecture donc des utilisateurs. Donc tout ce qui est listé là, c'est ce qui apparaît sur le plan. Et nous avons réussi à aussi faire pour l'instant une légère comparaison entre pour chaque objet graphique, l'information qui est inférée par l'expert, qu'il pense inférée, et l'information qui est lue, qui est interprétée par les skieurs. Alors on a 3 groupes de niveaux, les novices, les intermédiaires et les confirmés. Et donc, il arrive que l'information soit commune. Donc, on a ces tableaux. Donc, on en a 5 avec des zones vertes. Il arrive qu'elles soient pas partagées. Il arrive qu'elles soient même pas partagées entre niveaux. Donc, voilà. Ça, c'est un premier retour de la difficulté de cette lecture. Alors, le traitement de l'info, elle n'est pas sans hésitation, sans ambiguïté pour les utilisateurs. Dans l'analyse de discours, beaucoup de difficultés ont émergé. Elles se sont manifestées à travers donc l'incompréhension, l'incertitude, l'incohérence et la non-lisibilité. Ici, vous avez juste un exemple, quelques extraits de verbatim qui dit sur l'objet orientation comment on n'arrive pas à traiter cette information-là. Et donc, on a fait une étude sur l'expression difficulté et les catégories qui montrent plus de problèmes sont celles liées à la géomorphologie et au tracé. Alors, la géomorphologie est la catégorie qui groupe les formes du relief. Pour des raisons que Anne a bien expliquées, que nous avons bien identifiées, ces formes naturelles s'éloignent de la réalité et sont déformées. Et dans les plans Nova, la déformation et l'invention vont ensemble et sont très présentes, très fréquentes. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'intention de l'artiste, parce que lui, il a son idée, il explique pourquoi il fait ça. Mais d'un point de vue skieur, c'est exactement dans des lieux comme ça, dans des situations comme ça, où les problèmes émergent. Le cas typique d'Oris, ici c'est sa représentation sur le plan, et ici c'est sa représentation donc réelle, donc sur la prise de vue de Google Maps. Les données oculométriques, les premiers résultats de données oculométriques viennent en appui aux données verbales et montrent sur une tâche donc d'itinéraire dont je vous ai fait juste un petit extrait que tout niveau confondu sur des mesures de durée donc d'intensité de fixation, c'est à cet endroit-là que ça pose un problème. C'est là que on ne sait pas par où passer. Alors que la déformation et là, juste pour donner, pour assurer cette vision large, vaste du domaine, les données oculométriques nous montrent que les niveaux ont des périmètres d'observation différents, mais aucun va chercher ce qu'on entend comme panorama ou comme horizon. Donc là, on a sur la première minute d'exploration du plan, personne ne va voir les alentours. De façon un peu plus fine, on peut définir donc des zones d'intérêt. Donc, on avait un manque d'intérêt pour certains endroits. On est en train de travailler sur les statistiques descriptives dans lesquelles on peut mettre en évidence chaque objet graphique et puis voir le nombre de visites pour chaque. Voilà, je termine parce que donc d'une part les campagnes expérimentales ne sont pas terminées. Nous allons mettre en place et on le fera dans les semaines qui suivent une enquête massive sur la base des hypothèses qu'on extrait de ces résultats et on voudrait bien faire donc une étude de terrain donc in vivo avec des questionnements de matching sur les objets graphiques réels et graphiques. Voilà, donc cette année ça a été une année pilote. Ça nous a permis de tester un protocole et de valider la qualité de données. L'idée est vraiment de mettre ces dispositifs d'observation et de mesure à la disposition des opérateurs de la montagne pour les accompagner, pour les aider à réfléchir à un design innovateur de l'information géographique. Parce que le cœur de la question est dans l'information. On s'est cassé la tête pendant des années à faire de la déformation. Si elle n'est plus nécessaire, peut-être c'est le moment de changer. Et voilà. Donc, ce ne sera pas à nous de décider, mais ce sont les opérateurs du terrain qui sauront comment gérer ça. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole aux spécialistes de la déformation.
Et donc, nous, on s'est intéressé en fait à cette question de... Donc, dans la création des panoramas, on a bien vu qu'il y avait cette idée de déformation, qu'on partait... C'était pas une représentation photoréaliste ou même quoi, rien que le placement des objets n'était pas conforme à la réalité, qu'il y avait une déformation et qu'il y avait son utilité. Alors elle a sans doute des défauts aussi, mais elle a son utilité. Typiquement, un exemple simple, c'est de montrer, donc je vais passer là, ça c'est un plan des pistes, c'est de pouvoir montrer les deux versants ou les deux côtés d'une arête sur le même schéma, d'avoir sur une vue qui ressemble à la réalité, de pouvoir mettre toutes les pistes dessus sans avoir de choses qui sont cachées ou qui passent à l'arrière-plan ou des choses comme ça. Et donc du coup, nous on s'est posé la question en discutant avec Arthur Nova de comment est-ce qu'on pouvait passer toute une partie du processus qui est donc lui, la manière de procéder, c'est évidemment de dessiner, hein, de dessiner à la main originellement, maintenant avec des outils informatiques, mais en partant de photographie ou de reconnaissance sur le terrain, des cartes aussi évidemment, et donc de voir si on pouvait pas faciliter cette partie-là, de créer le panorama, et en partant d'un outil informatique et en particulier d'un modèle numérique de terrain. Et donc l'idée, alors c'est un travail en cours. Là, c'est juste pour montrer. Je vais vous montrer la démonstration. En fait, ça va être plus parlant. Ici, on a pris le modèle numérique de terrain. On voit c'est le balcon du. On est où là? Oui, il doit y avoir la dent de crawl, etc. C'est la Chartreuse. Hein. Et avec Grenoble à gauche et puis le Grésivaudan qui part là-bas. Et l'idée qu'on avait, c'est de pouvoir... donc ça, c'est à gauche, c'est une vue qui serait... alors, il n'y a pas les textures, etc. Hein, c'est un terrain qui est tout gris. Donc ça, c'est une vue photo-réaliste, entre guillemets. Quoi. C'est surtout la vue que pourrait prendre une caméra embarquée dans un avion ou un hélicoptère. Et ici, l'idée, c'était de pouvoir fabriquer une vue qui serait déformée. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment définir ou spécifier cette vue déformée. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était l'idée de pouvoir disposer des caméras dans notre scène 3D qui vont regarder des endroits particuliers de la montagne et qui vont dire à cet endroit-là, on veut voir cet endroit-là de ce point de vue-là, de cette manière-là. Et après, au système de se débrouiller pour rassembler toutes ces caméras et en faire une caméra qui serait un petit peu un espèce d'œil de mouche et en mettant bout à bout le terrain continuellement. Alors je peux vous montrer ce que ça donne. J'ai des images derrière. Alors ça, c'est le système qui tourne. Ici, j'ai une vue dans laquelle je vais mettre mes caméras. Donc c'est la vue, si je tourne, ça permet de disposer ma caméra. Et je peux rajouter une deuxième caméra et je vais me dire, par exemple... Alors, dans la vue de l'autre côté, je dis à quel endroit cette caméra-là, quel endroit, quelle région elle va déformer. Et donc, par exemple, ici, je vais me concentrer sur la dent de crawl. Et je vais pouvoir maintenant manipuler ce que voit cette caméra-là. Alors là, l'idée, c'est que je vais tourner pour que je me dise la dent de crawl, j'aimerais bien la voir du dessus, en fait. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que dans ma vue de ce côté-là, donc mon panorama, grosso modo, n'a pas changé. Mais par contre, la dent de crawl, alors ça se raffine au fur et à mesure parce que c'est quelque chose qui, en termes de calcul, demande beaucoup de calcul. Mais on a fait en sorte que ce soit interactif, c'est-à-dire que quand je bouge ma caméra, ça commence à bouger même si ça a gros grain. Puis petit à petit, quand le programme a du temps, il se raffine. Et donc, si on compare ma vue, mon panorama original qui est là, qui serait photoréaliste, si on compare à côté, donc l'ensemble de la vue est grosso modo le même, et sauf ici ma dent de crawl, elle a été déformée, elle a été tournée pour dire moi je veux voir le dessus parce que éventuellement j'ai des pistes qui partent derrière ou des choses comme ça. Voilà pour la démonstration. Et donc voilà où on en est, nous, dans ce qu'on fait. Et ce qui reste à faire, parce qu'évidemment il reste beaucoup de choses à faire, c'est réfléchir à comment on... Donc améliorer le rendu, les performances du rendu graphique, c'est-à-dire pouvoir le faire vraiment interactivement. Donc là, ça commence à bien progresser par rapport à ce qu'on avait originellement. Et puis à réfléchir comment on va interagir avec ces différentes caméras. Et notamment, on va demander à Arthur Nova d'essayer le prototype pour voir comment lui l'utiliserait s'il a des suggestions à nous faire. Voilà. Mais on ne pouvait pas commencer à réfléchir à lui demander de l'utiliser avant qu'il y ait un premier prototype qui soit mis en place. Donc c'est le travail qu'on a conduit. Voilà.